Bonsoir et bienvenue au Centre Pompidou. Merci d'être venus très nombreux assister à cette nouvelle rencontre autour de la création littéraire qui nous vaut le grand plaisir d'avoir ce soir pour auteur invité Emmanuel Carrère. Je ne vais pas le présenter ici, c'est avec Nelly Caprielian qu'il va s'entretenir. Et nous allons tenter avec elle de pénétrer dans les arcanes de son écriture, selon le principe du cycle « Écrire, écrire, pourquoi ?». Nelly Caprielian est critique littéraire, elle dirige les pages livres du magazine « Les Inrecuptibles », « Les Inrocs » pour ceux qui connaissent. Je les remercie tous les deux chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et je vais leur laisser tout de suite la parole en vous souhaitant une très bonne soirée qui vous donne l'envie de lire ou de relire « L'adversaire », un roman russe, « D'autres vies que la mienne » pour ne citer que les trois excellents derniers romans d'Emmanuel Carrère.
Bonsoir. À tout le monde. Bonsoir Emmanuel Carrère.
Et bonsoir et oui, merci beaucoup aussi de nous accueillir et merci quant à vous d'être venu.
Donc, écrire, pourquoi oui. Ça commence un peu comme une émission des années 50. C'est vrai, comme faisait Francine Figuère, on a tendance un peu à parler beaucoup de tes trois derniers textes. L'adversaire... un roman russe et d'autres vies que la mienne, comme si, au fond, ils étaient différents, ils étaient un peu séparés des précédents, que ce soit La classe de neige, La moustache, par exemple, pour parler des plus connus. Toi, est-ce que tu le vis comme ça aussi ? Est-ce qu'on a raison de faire cette séparation ?
Oui, moi, je le ressens un peu comme ça. Enfin, il y a une différence, en tout cas, qui est... je dirais objective, enfin, c'est-à-dire que ce ne sont pas des livres de fiction, ce qui était le cas des livres que j'ai écrits auparavant, pour l'essentiel, excepté une biographie du romancier de science-fiction Philippe K. Dick. Sinon, c'était des... et un court essai sur l'Uchronie, qui est une discipline dont je m'enorgueillissais d'être à l'époque le quasi spécialiste mondial et unique qui est, disons, c'est l'ensemble de toutes les spéculations sur le thème de qu'est-ce qui se serait passé si l'histoire s'était passée autrement, si Napoléon avait gagné à Waterloo, si Jésus n'avait pas été crucifié, si le nez de Cléopâtre avait été plus court, enfin voilà. Et autrement, j'écrivais pendant presque 20 ans, écrit essentiellement des romans et désiré essentiellement écrire des romans. Et en écrivant le livre L'adversaire sur un fait divers célèbre qui était l'affaire Jean-Claude Roman, au fond, il y a eu quelque chose qui a basculé pour moi d'une certaine façon. Je ne sais pas du tout si c'est irréversiblement, C'est un livre que j'avais, donc, où je m'étais trouvé devant, enfin, très fasciné, sidéré, comme beaucoup de gens, par ce fait divers très exceptionnel qui s'était produit en 93. Et je pense que j'ai pas été le seul à me dire, il faut écrire quelque chose là-dessus, faire un film là-dessus. Enfin, il y en a eu pas, voilà. Ça a beaucoup stimulé l'imagination. Mais, J'ai passé plusieurs années comme ça à osciller entre des tentatives d'écrire quelque chose qui relève de la fiction à partir de ça, qui soit inspiré librement de cette histoire. Et donc, quand c'est inspiré librement, ça veut dire qu'on a tous les droits, qu'on peut faire comme ça, comme ça vous chante, c'est-à-dire en fonction on sait que un tas de grands livres sont comme ça. Plus ou moins librement inspiré de faits divers, on le dit, du Rouge et le Noir, de Madame Bovary, de Crime et Châtiment. Ça ne veut pas dire qu'en quoi que ce soit, leurs auteurs aient estimé avoir eu des comptes à rendre à l'histoire vraie. Quoi. Mais bon, au terme d'un processus qui a été long, compliqué et à vrai dire très éprouvant psychologiquement, j'ai fini par écrire ce livre à la fois... disons en renonçant à la fiction et ce qui va avec en m'estimant tenu à la sinon à la vérité, en tout cas à la véridicité, à l'exactitude des faits, Et l'autre, et ce qui est allé de pair avec ce choix-là, c'était le, ce que je ne peux même pas appeler le choix, parce que ça n'a pas été un choix raisonné, mais ça c'est fait de soi-même, d'écrire ce livre à la première personne, ce qui n'allait pas de soi comme une nécessité absolue, puisqu'en plus, je veux dire, le livre n'est pas du tout sur moi, je n'en suis pas le centre, j'en suis que le narrateur, témoin, je suis, disons, la conscience qui enregistre ce qui est raconté. Mais au fond, ce qui s'est passé au fil des, pour moi, des quelques 7 ans passés à ne pas arriver à ce livre, puis in extremis à arriver à le faire, au fond, se prolonge dans les deux autres livres que j'ai fait après. Et j'imagine dans en tout cas dans celui que j'imagine maintenant. Ensuite, je tiens à dire que dans il n'y a aucune espèce de ma part de, je sais pas, de position idéologique selon laquelle le roman, ça serait périmé, pas bien, quelque chose comme ça. Je pense absolument rien de tel et je suis un lecteur de romans, un amateur de romans. Je serais très heureux à l'occasion de réécrire un roman. Mais actuellement, c'est pas comme ça que ça se présente, quoi. Et donc, il y a à la fois ça et le fait, effectivement, d'être passé à la première personne. Et là aussi, pour le moment, il me paraîtrait difficile d'écrire un livre autrement. Alors qu'auparavant, l'usage de la première personne m'aurait paru absolument impossible. Enfin, c'était quelque chose de tout à fait hors de question. Je voudrais juste insister sur le fait que, encore une fois, que l'usage de la première personne n'implique pas du tout d'être le protagoniste du livre. Enfin, ça s'est produit une fois dans le livre Un roman russe. Autrement, ni l'adversaire, ni le dernier livre que j'ai publié, je ne suis au centre du livre, j'en suis le narrateur. Mais c'est,
Alors, est-ce que tu t'expliques aujourd'hui, 10 ans après l'adversaire, donc, qui est paru en 2000, pourquoi t'as ressenti cette nécessité ? Pourquoi ça s'est un peu imposé à toi, cette nécessité, justement, de plus être dans le roman, mais d'être, de dire « je » et de
ça raconter s'est imposé, Ça s'est imposé au fil des tentatives vaines et pénibles et angoissantes. Et quand je dis angoissante, c'est vraiment un euphémisme. Enfin, c'était horrible pour écrire ce livre. Au fond, j'ai essayé d'écrire ça sous forme de fiction. Finalement, ça a d'une certaine façon donné un roman qui s'appelle La classe de neige, qui est sans lien direct, mais qui, disons, est très imprégné par ce climat, même les thèmes de cette histoire. Et puis, j'ai mis un temps fou. Enfin, j'arrivais pas du tout à trouver ce qui me paraissait être une place juste à partir de laquelle raconter cette histoire. Et évidemment, enfin, quand on raconte une histoire aussi affreuse et réelle et qui concerne des personnes réelles, vivantes, et au premier chef, un type qui a tué toute sa famille après avoir menti pendant 18 ans et qui est en prison et qui a été jugé par la justice comme il convenait. Enfin, mais maintenant, bon, j'ai pas vraiment de raison d'arriver le juger derrière. Enfin, c'est pas, j'ai aucune, comment dire, je n'étais mandaté par personne pour faire ça. Et donc, quand on fait quelque chose comme ça, on ne cesse de se poser la question de sa légitimité, de quel droit est-ce que je raconte ça, qu'est-ce qui m'autorise à dire ça. Et au fond, c'est un livre que j'ai abandonné à deux reprises, et la deuxième fois j'en ai éprouvé un vraiment en dépit du fait que ça avait représenté beaucoup de travail, enfin beaucoup de travail qui me paraissait à ce moment-là perdu, même si j'ai tendance à croire que les choses se perdent pas finalement, mais j'en étais plutôt content d'abandonner ça en me disant ouf, bon, passons à autre chose, je savais pas quoi, mais arrêtons cette histoire épouvantable et ma fascination pour cette histoire épouvantable. Et je me suis, et donc, dans tout en étant soulagé, somme toute, de m'éloigner de ça, je me suis dit, bon, malgré tout, ça a été quelque chose d'important dans ma vie. Ça fait 6 ou 7 ans que je tournicote autour de ce truc-là. J'ai évidemment pas fait que ça, mais enfin, ça a été vraiment central dans ma vie. J'ai été en correspondance avec ce type, j'ai assisté à son procès. Je connais par cœur son dossier d'instruction qui fait quand même 2,20 m sous la de hauteur de dossier superposé. Et je m'étais dit, bon, juste à titre juste pour moi, je vais me faire une espèce de petit mémo, quoi, me racontant ce que ça a été, quoi, ce truc, pour me le, un jour je me le rappellerai, ça m'intéressera. Et au fond, du coup, j'ai commencé à écrire à la première personne et en n'ayant pas le sentiment que j'étais en train d'écrire un livre. Et c'est ainsi que, en fait, bon, comme on n'est pas, je suis pas naïf à ce point. Au bout de 2 ou 3 heures, je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire le livre que je m'évertuais à ne pas arriver à écrire depuis 6 ans. Mais tout d'un coup, le simple fait d'écrire à la tout à coup, j'ai eu
l'impression d'être à la bonne place. Pendant 6 ans, t'as tourné autour de la fiction, et c'est au bout de 6 ans.
Autour de la fiction ou autour, disons, d'un récit. De non-fiction, comme disent les anglo-saxons, de façon à la fois pas très satisfaisante et finalement, il n'y a pas beaucoup mieux. Non, mais disons quelque chose qui aurait été sur le modèle du livre de Truman Capote et de Sang-Froid, qui est effectivement le grand, grand modèle et une ombre très, très intimidante pour quiconque envisage d'écrire quelque chose à partir d'un fait divers. Mais le livre de Sang-Froid est un livre de non-fiction absolue où Capote se targue de n'avoir absolument rien inventé. Et il dit même à un moment dans un entretien, il dit un truc formidable, il dit qu'à un moment dans son livre, je ne sais pas, les deux types conduisent une voiture et puis il y a un chien qui manque d'écraser. Et puis il y a le journaliste qui l'interroge, lui dit mais ça, vous l'avez inventé. Capote dit mais non, je ne l'ai pas inventé. Et je veux dire, c'est ma fierté, ça serait mon déshonneur de l'avoir inventé. Personne ne peut le savoir, mais moi, je sais que je ne l'ai pas inventé, que j'ai tiré ça quelque part d'un dossier, ce chien qui échappe de peu aux roues de la voiture. Mais en tout cas, en revanche, le livre de Capote est pardon, là, je fais une parenthèse quand même parce que c'est très troublant. Le livre de Capote n'est pas à la première personne et est un livre écrit dans un souci absolu et obsédant d'impersonnalité. Enfin, c'est une espèce de rêve flaubertien dans lequel l'écrivain s'absente complètement. Enfin, fait comme si l'histoire se déroulait sans qu'il soit là pour la raconter, comme si c'était vraiment le point de vue de Dieu le Père. Or, cette œuvre d'art absolument accomplie qu'est de Sang-Froid repose sur une tricherie et un mensonge que d'ailleurs raconte très bien je n'ai vu qu'un des deux, mais l'un des deux films qui ont été... Truman Capote, ici, c'est lui avec Philip Seymour Hoffman, qui raconte admirablement, très très bien, cette histoire. C'est-à-dire qu'en réalité, effectivement, Capote n'a pas du tout été mêlé à l'histoire tant que... des assassinats et tout, mais une fois que les deux types qui avaient commis ces assassinats ont été arrêtés, ils ont passé 3 ou 4 ans en prison avant d'être pendus, et Capote était la personne la plus... Et tout cela est raconté dans le livre. Or, il était la personne la plus proche d'eux. Il avait des relations d'amitié profonde et même probablement amoureuse à l'égard d'un des deux types, et il les voyait tous les deux jours, il leur écrivait tout. Quand il était là, il leur écrivait tout le temps. Et il était en même temps dans une situation... que le film raconte très bien, et que lui ne pouvait pas raconter, tellement elle est horrible. Et je pense que peu de livres ont été écrits dans un inconfort moral aussi absolu, c'est-à-dire qu'il savait parfaitement que la bonne fin pour son livre, dont il pensait que ça allait être un des chefs-d'œuvre de la littérature du XXe siècle, en quoi il avait raison, que la bonne fin pour son livre, c'était que les deux types soient pendus. Effectivement, c'était la bonne fin. Et en même temps, il était là à leur dire « Ah non, mais on va vous trouver un meilleur avocat pour le recours en grâce, pour ceci, pour les sursis, les appels, les trucs comme ça. » Et en même temps, il mettait des cierges à l'église pour qu'on les pende. C'est une situation mais sidérante, quoi, et dont il ne pouvait pas parler dans le livre. Et le livre cache ça, ce qui ne le rend pas moins beau pour autant. Hein. C'est pas... Mais disons... c'était une parenthèse parce que cette histoire je la trouve passionnante, quoi, l'histoire.
Ce qui est passionnant aussi, c'est qu'ensuite il n'a pas pu écrire quasiment, il s'est détruit.
Je pense que ceci a à voir avec cela. Enfin, voilà. Je ne veux pas faire de psychologie. Enfin, si c'est de la psychologie.
Oui, non, mais on peut qu'en tirer cette conclusion.
C'est inévitable de penser ça, oui.
Alors, justement, dans ce film Capote, enfin, j'en parle parce que tu l'abordes, ce qui m'a frappé, c'est qu'on voit absolument, je trouve que c'est un film magnifique sur l'écriture, sur le rapport de l'écrivain avec son sujet, et à quel point Capote était vampirique vis-à-vis de ces deux types, qui les aimait en même temps, il était d'un cynisme, comme tu viens de dire, comme un peu absolu pour terminer son livre. Donc, il avait ce rapport vampirique, et on voit aussi comment l'écrivain est absolument... peut-être, on peut dire, vampirisé à son tour par son sujet, en tout cas consumé par son sujet. Toi, est-ce que tu l'as ressenti en écrivant
L'adversaire, oui, ouais. Absolument. Vraiment, enfin, pardon, c'est très emphatique de dire ça. Hein, c'est,
non, mais c'est intéressant.
Ce livre, enfin, il est vrai que bon, cette histoire est absolument terrible. Je suis rentré avec cet homme à ma propre demande, de mon propre chef, c'est-à-dire alors qu'il ne me demandait rien, dans une relation personnelle avec lui, qui n'était pas une relation d'amitié, je n'ai jamais prétendu que ça en soit une, mais enfin qui était une relation entre deux êtres humains. Encore une fois, je n'avais aucune qualité pour le juger. Il avait été déjà jugé, ça y est, c'était fait. Je veux dire, ce n'était pas à moi d'arriver derrière. En même temps, je n'étais pas son ami, je n'étais pas son... Bref, enfin, il s'est créé une relation et de ma part, enfin, il y avait une fascination pour cette histoire où j'étais épouvanté par ce que je pouvais trouver de moi-même qui se reflétait dans son histoire. Chez lui, il y avait aussi un côté manipulateur qui était chez moi aussi. Enfin, il y a eu une relation. J'ai correspondu avec lui et je suis allé le voir en tout trois fois en prison et j'ai assisté à son procès. Ça savait que je voulais faire un livre sur lui. Il y avait un rapport d'intimité, quoi, malgré tout. Et cette intimité m'effrayait énormément. Je me demandais ce qui me poussait à vouloir écrire ça. Au fond, il y a une chose qui a été très bienfaisante, pour moi, j'entends, à la sortie du livre, c'est que bon, il a été très bien accueilli. Et au fond, j'ai l'impression que la fascination que je pouvais éprouver pour une histoire comme celle de roman était très très partagée. Et que donc, je veux dire, c'était pas juste moi qui étais un monstre de me reconnaître si peu que ce soit en lui. J'ai l'impression que c'est une histoire, et je pense que c'est pour ça aussi que cette histoire touche et émeut et pas seulement moi, et que beaucoup de gens ont eu envie d'écrire, de filmer, de faire des choses à partir de ça. C'est que ça touche, même si ça prend évidemment une forme paroxystique, exacerbée, monstrueuse. Enfin, ce dont ça parle est quelque chose d'à peu près universellement partagé. Le sentiment qu'on a au fond du décalage entre l'image qu'on donne ou qu'on s'efforce de donner ou qu'on s'imagine donner à autrui et ce qu'on sait bien qu'on est soi-même dans les moments les plus de dépression, d'insomnie, d'angoisse, de choses comme ça. En fait, en gros, l'état dans lequel lui vivait chroniquement. Et dans lequel, pour ma part, j'ai quand même vécu les années où je l'ai accompagné. J'ai vraiment l'impression que, enfin, je l'ai accompagné, ou ce que ces années ont été des années de dépression larvée ou ouverte et aiguë. Ça n'a pas du tout été une partie de plaisir. Mais encore une fois, enfin, il y a quelque chose qui m'a vraiment soulagé à la parution du livre, c'est de voir, d'après les réactions des lecteurs, à quel point, au fond, ce que j'avais éprouvé moi n'avait rien de bien spécial et que tout le monde l'éprouvait plus ou moins.
Alors, sans doute. En même temps, tout le monde n'a pas écrit un roman russe après. C'est-à-dire, comment l'adversaire t'a permis, finalement, ensuite, de quasiment faire une propre enquête sur toi-même et tes propres parts d'ombre. Parce qu'on a beaucoup écrit quand je sais la presse a pas mal certains critiques ont écrit quand l'adversaire est sorti que c'était peut-être une espèce d'écran pour parler de toi en fait qu'au fond c'était
oui,
voilà
bien sûr, oui pas besoin d'être
grand clair mais donc du coup en 2007 tu publies un roman russe comment est-ce que tu décides d'aller
vers ça. J'ai pas vraiment décidé par ailleurs c'est quand même d'abord tu vois, c'était 2000 l'adversaire et ça 2007, ça a quand même mis 7 ans quoi, à se faire, pendant lesquels j'ai fait deux films, dont un qui s'appelle Retour à Kotelnitch, qui est en fait intimement lié à un roman russe. Je dirais que c'est d'une certaine manière, enfin, à l'inverse de ce qui se passe actuellement, c'est comme si un roman russe était la novélisation du film Retour à Kotelnitch, dans ce qui est. Mais bon, il s'est passé un tas de choses pendant ces années qui ont été que j'ai pas mal passé de temps en Russie, j'ai décidé d'aller faire un film en Russie, ce film n'avait pas de sujet et il s'est trouvé par malheur en avoir un tout à coup, c'est-à-dire qu'une jeune femme qui travaillait avec nous, qui était interprète avec la toute petite équipe de ce film qui donc se déroulait dont l'objet était de filmer ce qui se passe dans une toute petite ville de Russie, avec le risque qu'il ne se passe rien. Et pendant assez longtemps, il ne se passait rien. Et je pestais parce qu'il ne se passait rien. Tout en me disant, bon, c'était, en gros, c'était ça la condition. C'était le, c'était, j'ai signé pour ça, quoi. Et tout à coup, il s'est passé quelque chose. C'est que cette fille a été assassinée. Elle a été découpée à la hache avec son enfant de 8 mois. Enfin, c'est une abomination sans nom. Du coup, ce film est devenu, en fait, finalement, un film de... sur le deuil vécu par cette famille, donc d'un petit bled de Russie, ces personnages qui sont à la fois très, je ne sais pas quoi d'autre, enfin, extrêmement attachants, extrêmement, avec qui finalement j'avais un lien assez, assez fort. Bref, bon, tout ça s'est mélangé avec en même temps une histoire d'amour que j'ai vécue pendant ces années, avec toute une espèce d'enquête, ce qui allait avec la Russie, c'est une espèce d'enquête sur mon histoire familiale, la figure... je dirais, un peu noir et fantomatique pour moi de mon grand-père maternel. Mais, au fond, ce qui est venu... Je pense qu'à un moment, je me suis dit, je vais écrire des choses sur tout ça, puisque tout ça s'est fait par strates de notes, de journaux tenus à diverses reprises, dans diverses circonstances, tout ça. Est venu le moment, assez tardivement... où je me suis dit, mais au fond, tout ça peut marcher ensemble. L'idée que... cette idée a mis du temps à faire son chemin, parce qu'au fond, il aurait été au moins plausible, possible, de raconter d'un côté cette histoire de cette petite ville de Kotelnitch, de ce que j'y ai vécu, passé, des gens que j'y ai rencontrés, en associant ça à l'histoire de ma famille d'origine russe, tout ça. Là, il y avait une espèce d'unité. Et par ailleurs, mon histoire amoureuse, à ce moment-là, qui était une histoire amoureuse d'abord heureuse et qui a pris un tour absolument catastrophique, notamment de mon fait, et parce que je m'étais livré à une espèce... d'étranges acting out ou trucs comme ça, en fait, sous forme d'une nouvelle pornographique qui était parue dans le journal Le Monde.
Oui, donc elle est destinée à ta fiancée.
Oui, j'ai l'impression qu'on fait parenthèse sur parenthèse. Mais,
oui. Enfin, c'est
le
livre, en
même temps. Oui, bien sûr. Mais bref, y a un moment où ça m'a paru à la fois... disons, aller de soi, de mettre tout ça ensemble et de me dire, ensuite c'est un travail de montage, mais de la juxtaposition, de l'association de ces récits qui sont a priori hétérogènes, disons, et qui n'ont guère pour autre point commun que ça m'est arrivé à moi dans le même espace de 2 ou 3 ans. Ce qu'on peut juger, pertinent ou pas pertinent, disons. Mais bon, moi, je pensais que ça allait, qu'il y avait un sens qui m'échappait de tout, mais tout de même, à essayer de faire marcher, d'agencer tout ça ensemble. Et je continue à le penser, en fait. Je pense qu'il y a une... c'est sans doute quelque chose, d'ailleurs, qui... à quoi l'expérience de la psychanalyse n'est pas étrangère, enfin qui est à la fois
la question. Oui, comment tu retiens justement ce qu'il y a à dire,
de libre association, et aussi de ne pas qui consiste à ne pas séparer les choses, enfin se dire que le moi, puisqu'en l'occurrence il s'agissait de moi, c'était citoyen, amant, cinéaste occasionnel, explorateur de la Russie profonde d'aujourd'hui, enquêteur sous des genres, il est de toute manière le même. Et donc il y a cette espèce d'unité à laquelle de toute manière on peut pas échapper, et qui est l'unité qui, je pense, donne corps au livre, enfin, j'espère en tout cas.
Oui, et fait sens, quoi. C'est une espèce de montage un peu qui a l'air a priori hétéroclite et qui finalement, par le choix que tu en fais, même sans
savoir toi... Je l'espère, mais c'était... Non, en tout cas, disons, le crédit que je me fais pour ce livre, c'est au fond d'avoir consenti à le faire vraiment à tâtons, sans savoir où ça allait, et au fond, à faire... une espèce de confiance à l'inconscient, quoi, de me dire ça, à un moment ça agence les choses de façon plus maligne peut-être que je ne le ferais en contrôlant trop.
Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu as quand même retranchées, que tu voulais mettre dans ce livre, d'autres moments, d'autres périodes, d'autres histoires?
Oui, bien sûr qu'il y en a que j'ai retranchées, et du reste il y en a sans doute que si je disons, si je republiais le livre aujourd'hui, il y aurait sans doute des choses que je retrancherais pour des raisons qui ne sont pas du tout de gêne ou d'embarras ou de choses comme ça, mais des raisons de, je ne sais pas, d'équilibre narratif, des trucs comme ça. Il y a des trucs dont j'ai l'impression qu'ils débordent un petit peu, mais ça, c'est la loi d'un livre. Je dirais que, enfin, une certaine imperfection me paraît être la loi et la. Et presque l'honneur d'un livre de ce type de livre.
Alors tu parlais pour l'adversaire, tu disais à un moment donné qu'il y avait aussi une place, tu avais pensé à cette histoire de place de l'écrivain par rapport à son sujet, d'une morale en fait, et de pas juger Jean-Claude le roman puisque de toute façon il avait été là dans un roman russe, pardon. Il est beaucoup question de ta mère, puisque c'est l'histoire de son père, qu'il y a un peu un non-dit autour de ça. Donc tu t'appropries.
Peut-être que à l'usage des personnes présentes qui n'ont pas lu le livre et qui sont peut-être nombreuses, faut-il préciser qu'en fait, ce qui est raconté une des choses qui sont racontées dans ce livre est l'histoire de mon grand-père maternelle, du père de ma mère, qui est Hélène Carrère d'Encausse, l'historienne, qui est très, très connue et une figure publique très importante, et mon grand-père, qui était un émigré géorgien, qui au fond s'était mal intégré en France, qui, à la fin de l'occupation, a travaillé pendant un an pour les Allemands comme interprète. Et il a été, pour ses faits de collaboration, à vrai dire, très, très mineurs, il se trouve, dans le chaos de la libération à Bordeaux, il a été arrêté par des inconnus, on ne l'a plus jamais revu. Donc cette histoire qui est une histoire de disparition avec ce qu'il y a de terrible là-dedans, de plus terrible qu'une mort, puisqu'on ne peut pas, on peut rien se... Enfin, pardon, c'est un lieu commun ce que je dis là, mais c'est une vérité, on ne peut pas se représenter, il n'y a pas de tombe, il n'y a aucune certitude, tout ça. Donc cette figure de mon grand-père, ma mère, au moment de sa disparition, devait avoir 16 ans. Évidemment, ça a été quelque chose d'absolument fondateur pour elle. Sa vie, c'est, je pense, construite en grande partie, ou arc-boutée à ce drame. Donc, voulant en parler, ayant le sentiment que cette espèce de secret de famille serait un mot excessif, parce que c'est pas un truc dont il n'était absolument pas question, mais bon, on préférait pas en parler, quoi. Le fait que moi j'ai désiré en parler dans ce livre a été extrêmement, a suscité une réaction de très très forte hostilité de ma mère, m'interdisant de le faire en réalité, à un moment de façon tout à fait explicite, et c'est raconté dans le livre. Et finalement, mais non sans peine, enfin, c'était pas une des décisions en fait prises d'un cœur léger, mais j'ai décidé de passer outre cette interdiction et donc de raconter cette histoire qui, en vérité, n'est pas grand chose. Enfin, je veux dire, c'est une histoire terrible, mais il n'y a rien là-dedans qui puisse nuire à ma mère ni quoi que ce soit de ce genre. Mais il y a quelque chose qui pour elle, enfin, était de l'ordre de voilà, ça lui était épouvantablement douloureux que j'en parle. Et donc en transgressant cet interdit, je savais courir un vrai risque, enfin, et pour elle et pour moi, enfin, et c'est pour nos relations. Et je dirais que je l'ai fait en ayant l'impression que c'est, enfin, parce que j'avais le sentiment que le faire était vital pour moi, ce qui encore une fois peut paraître aussi un peu emphatique, mais il est vrai qu'à partir du moment où il y a une chose qui est interdite, c'est évidemment la chose qui paraît la plus indispensable à dire. Enfin, quand bien même auparavant, on n'aurait pas pensé du tout à la dire et elle ne vous aurait pas du tout empêché de dormir. Dès l'instant où on vous l'interdit, je n'ai pas l'impression que ce soit être super tordu que de se dire « bon, c'est là que je veux aller, quoi. C'est humain, c'est comme ça. »
C'est aussi une parole qu'on s'approprie, finalement. Qui n'est pas juste la parole de l'autre,
bien sûr.
La garde. Mais alors, tu parles aussi donc de Sophie, c'est une femme avec qui tu étais. Dans d'autres vies que la mienne, il y a évidemment plein de personnes réelles. Alors, tu parlais de la morale, de la place, de la juste place occupée par rapport à ces sujets et à ces personnes. Comment tu travailles justement vis-à-vis de ça?
Ça, c'est extrêmement. Disons, ça fait partie des choses qui vraiment. trace une frontière extrêmement nette entre ce qui est la fiction et ce qui n'est pas la fiction. Non, c'est marrant parce que je pense, j'avais il y a peu de temps une discussion avec une amie écrivain et qui me disait, enfin, toutes ces histoires de fiction, non-fiction, ça n'a aucune importance. En réalité, c'est tellement confondu, tellement mêlé. Et je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout. Je veux dire, je ne dis pas nécessairement qu'il faille attacher à cette frontière et, à la, et au fait de franchir ou non cette frontière une très grande importance. Mais que cette frontière existe et qu'elle soit parfaitement claire, je le soutiens. Et je pense qu'un des critères, enfin, voilà, ce qui détermine cette frontière, c'est notamment le fait de nommer les gens par leur nom, tout simplement. Je me souviens, il y avait dans un livre de Christine Angot, il y avait une phrase qui m'avait frappé, que j'avais trouvée très, très forte. Elle disait juste, parlant effectivement de gens qui étaient de son entourage, tout ça, elle, et qu'elle ne nommait pas par leur nom, elle s'en excusait, enfin dans le livre, pour autant que ça soit le genre de Christine Angot de s'excuser, mais quand même, elle disait, elle s'adressait au lecteur en disant, voilà, l'avocat de, ça devait être, je ne sais pas, Stock, l'avocat de Stock m'a dit, non, c'est pas possible, il faut changer les noms. Etc. Et elle dit, mais quand on change les noms, c'est moins bien. En tout cas, dans cette logique-là, hein, j'entends bien sûr. Il ne s'agit pas, bien sûr, que c'est pas la logique de Madame Bovary ou un truc comme ça. Mais dans quelque chose qui se réfère et se soumet à la réalité, tout ça, la question des noms propres est totalement, non seulement elle est très importante, mais elle est totalement opératoire pour constituer une frontière. Cette frontière n'a rien de flou, elle existe. Ça veut dire que dans un cas, vous avez à répondre de ce que vous dites. Dans l'autre, vous pouvez parfaitement vous abriter derrière l'irresponsabilité de l'auteur et dire bah « Non, écoutez, vous vous reconnaissez là-dedans. Bah non, ça s'appelle, le personnage s'appelle Monsieur Dupont et vous vous appelez Monsieur Durand. » Non, c'est pas ça. Alors qu'à partir du moment où on dit « C'est Jean-Claude Roman, c'est Étienne Rigal, c'est Hélène Carrère-Mancos, c'est Sophie. » Voilà, il y a une... alors... Ensuite, là, on peut s'y prendre de mille façons différentes. Et quant à moi, j'en ai expérimenté, somme toute, plusieurs sur la façon de... Oui, enfin, disons, les diverses modalités de la façon dont on endosse cette responsabilité à l'égard des gens dont on parle. Mais c'est très... Enfin, c'est à la fois compliqué, ça complique la vie, et c'est très... ça crée, je ne sais pas, une espèce... J'ai du mal à théoriser là-dessus, mais enfin, une espèce de, quand même, de contrat de lecture qui est très, très particulier, quoi, et qui, pour ma part, m'intéresse. Comme auteur, en tout cas.
Pour chaque livre, en tout cas, tu t'es posé la question différemment.
Pour chacun de ces trois livres, en tout cas, cette question ne s'était jamais posée auparavant pour moi. Enfin, éventuellement, pour la biographie de Dick, où je prenais des... Mais en plus, je veux dire, si, le livre a été traduit aux États-Unis, voilà, je disais des trucs sur certaines personnes, certaines des ex-femmes de Dick, des gens de son entourage. Enfin, comme fait tout biographe, c'est-à-dire qu'il s'expose éventuellement à ce que des gens aillent râler en disant « je trouve que vous ne m'avez pas bien traité », ce qui d'ailleurs ne s'est pas produit vu, je pense, le peu d'audience qu'a eu le livre. Pour l'adversaire...
Tu lui as fait lire à un moment donné.
Alors, l'adversaire, je l'ai fait lire à Jean-Claude Roman, mais terminé, sur épreuve, je crois, et en lui disant, ce qui était une règle du jeu qui peut paraître très cruelle, mais qu'il a parfaitement comprise, et qu'il n'a jamais discuté, en lui disant, le livre est fini, je n'y toucherai plus un mot, pour ça, j'avais une bonne raison, qui était de dire, même si vous me faites une remarque tout à fait factuelle et que je pourrais aisément intégrer, même si vous me dites voilà, vous écrivez que ma voiture était bleue, en réalité elle était verte, je lui ai dit, même une correction de ce genre, je ne la ferai pas, parce que au point où on en est arrivé, je préfère prendre en charge, assumer la responsabilité de mes erreurs ou de mes inexactitudes éventuellement. Je ne peux pas, si peu que ce soit, prendre en charge votre vérité, elle n'appartient qu'à vous. Et c'est précisément toute la difficulté que j'avais eue comme auteur à me mettre à une place où je ne pouvais parler. Je parlais de lui, certes, mais je ne parlais que pour moi. Je ne prétendais pas une seconde parler pour lui. Et je pense que c'était vraiment la seule position moralement acceptable. Je me souviens, j'avais été très surpris. J'avais été à l'époque, je crois qu'Apostrophe existait encore, ou ça s'appelait autrement déjà. Quelque chose comme... Mais en tout cas, j'étais allé pour parler de ce livre, et il y avait, parlant d'un livre qu'il venait de publier aussi, Michel Pollack. Et Pollack m'avait dit, bon, d'abord, je trouve votre livre mauvais, ça, j'y peux rien, j'ai rien à dire. Mais il me disait, je trouve que vous avez manqué de courage, que la seule façon honnête, la façon qui valait le coup, c'était de dire, moi, Jean-Claude Roman, de parler. Et là, j'étais en total... autant, je veux dire, qui trouve mon livre mauvais, je ne peux rien dire, mais là, j'étais en total désaccord. J'avais l'impression que c'était une position moralement inadmissible, parce qu'en gros, toute l'histoire de Roman, c'est un type qui n'a jamais pu parler en son nom propre, jamais pu exister en son nom propre. Et si tout à coup, je parlais pour lui... j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui était vraiment criminel d'une certaine façon. Alors que ce dont, quels que soient les défauts éventuels de ce livre, ou même son manque éventuel de miséricorde à l'égard de son protagoniste, en tout cas, je n'ai pas parlé pour lui, je n'ai fait que parler pour moi. Et au fond, j'ai l'impression que tout le travail, toutes ces années si laborieuses, si douloureuses passées à essayer de faire ce livre, c'était pour arriver... consciemment, mais en tout cas pour y arriver, à occuper cette position où je ne parlais que pour mon compte. Bon, et donc, lui, je lui ai donné le livre à lire, mais terminé. Pour un roman russe, je ne l'ai donné à aucune des personnes que ça concernait, ni bien sûr les personnages russes, mais de toute manière, ils sont loin, ils le liront pas, tout ça, ni les deux personnages principaux, qui sont ma mère et Sophie, ma compagne de l'époque, et ça a été compliqué, disons. Ça a été fort compliqué. Maintenant, personne n'en est mort, personne n'a dit, il n'y a pas eu de drame. Mais enfin, c'était. Le dernier cas de figure, c'est D'autres vies que la mienne, où j'ai en fait les principaux personnages. Je leur ai fait lire le livre avant sa parution et en leur disant le contraire de ce que j'avais dit à Roman, c'est-à-dire. Tout ce que vous me demandez de changer, je le changerai. Éventuellement, je plaiderai ma cause s'il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Mais enfin, c'est vous qui aurez le dernier mot. Enfin, si vous me dites,
comment t'expliques justement le changement vis-à-vis de... D'abord, Étienne Rigal, le juge qui traverse quand même le livre.
Oui, il y a tout simplement une chose. Il y a une chose finalement, qui rend la chose beaucoup plus facile, c'est que. C'est aussi pour ça d'ailleurs que bizarrement ce livre qui raconte des histoires d'une terrible, très très douloureuse, n'a pas été écrit de façon très douloureuse à la différence des deux précédents, parce qu'au fond je l'ai écrit avec les personnes dont il parle dans un rapport d'amitié et de confiance très grande, enfin qui faisait qu'au fond cette proposition que je leur ai faite de le lire me paraissait aller de soi, et du coup j'étais d'ailleurs mes éditeurs étaient Paul Tchaïkovski, Laurence et Jean-Paul Hirsch ici présents me disaient mais t'es complètement fou, tu vas voir ça va très mal se passer, ils vont te demander de virer la moitié du livre, etc. Et en fait j'étais sûr que non, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de qu'à partir du moment où ils étaient d'accord pour cette entreprise, ils n'allaient pas revenir sur cet accord, qu'éventuellement, ils me diraient « Est-ce que tu peux changer tel ou tel truc ?» Et que, bien sûr, je le changerais, ou éventuellement, je discuterais, ou tout ça, mais qu'il n'y aurait pas de... Je n'allais pas me retrouver devant des gens qui, tout à coup, me diraient « Ah ben non, je ne suis plus d'accord. » Si c'était ce qui s'était passé, il n'y aurait pas eu le livre, effectivement. Je veux dire, si c'était courir le risque que quelqu'un me dise « Non, je ne suis pas d'accord pour que tu publies ce livre, tu le gardes dans ton tiroir. Bon, » J'aurais été très, 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 très embêté, c'est sûr. Mais au fond, je pensais que ça ne se produirait pas et ça ne s'est pas produit. Et du coup, c'était une position très, je dirais, confortable psychologiquement. Je ne suis pas sûr que c'est quelque chose que j'aurai l'occasion de refaire, mais ça a rendu le fait de l'écriture de ce livre, même si certes, des choses qu'il raconte n'ont pas été une partie de plaisir à écrire, mais ça a été écrit de façon paisible et même détendue, en me disant ça va, je suis absolument au clair avec les gens dont ça parle, ils seront contents. Non, on ne peut pas toujours écrire comme ça, c'est sûr.
Est-ce que tu veux nous lire le début et après on parle de comment ça se passe.
Alors, donc, je vous lis les deux premières pages. La nuit d'avant la vague, je me rappelle qu'Hélène et moi avons parlé de nous séparer. Ce n'était pas compliqué. Nous n'habitions pas sous le même toit, n'avions pas d'enfants ensemble. Nous pouvions même envisager de rester amis. Pourtant, c'était triste. Nous gardions en mémoire une autre nuit, juste après notre rencontre, passée tout entière à nous répéter que nous nous étions trouvés, que nous allions vivre le reste de notre vie ensemble, vieillir ensemble, et même que nous aurions une petite fille. Plus tard, nous avons eu une petite fille. À l'heure où j'écris, nous espérons toujours vieillir ensemble et nous aimons penser que nous avions dès le début tout compris. Mais il s'était écoulé depuis ce début une année compliquée, chaotique, et ce qui nous paraissait certain à l'automne 2003, dans l'émerveillement du coup de foudre amoureux, ce qui nous paraît certain, en tout cas désirable 5 ans plus tard, ne nous paraissait plus certain du tout, ni désirable, cette nuit de Noël 2004, dans notre bungalow de l'hôtel Evalanca. Nous étions certains, au contraire, que ces vacances étaient les dernières que nous passions ensemble et que, malgré notre bonne volonté, elles étaient une erreur. Allongés l'un contre l'autre, nous n'osions pas parler de la première fois, de cette promesse à laquelle nous avions tous les deux cru avec tant de ferveur et qui, de toute évidence, ne serait pas tenue. Il n'y avait pas entre nous d'hostilité. Nous nous regardions seulement nous éloigner l'un de l'autre avec regret. C'était dommage. Je ressassais mon impuissance à aimer, d'autant plus criante qu'Hélène est vraiment quelqu'un d'aimable. Je pensais que j'allais vieillir seule. Hélène, elle, pensait à autre chose, à sa sœur Juliette, qui, juste avant notre départ, avait été hospitalisée pour une embolie pulmonaire. Elle avait peur qu'elle tombe gravement malade, peur qu'elle meure. J'objectais que cette peur n'était pas rationnelle, mais elle a bientôt pris toute la place dans l'esprit d'Hélène, et je lui en ai voulu de se laisser absorber par quelque chose à quoi je n'avais aucune part. Elle est allée fumer une cigarette sur la terrasse du bungalow. Je l'ai attendue, couchée sur le lit, en me disant « si elle revient bientôt, si nous faisons l'amour, peut-être que nous ne nous séparerons pas, peut-être que nous vieillirons ensemble. » Mais elle n'est pas revenue, elle est restée seule sur la terrasse à regarder le ciel s'éclaircir peu à peu, à écouter les premiers chants d'oiseaux, et je me suis endormi de mon côté, seul et triste, persuadé que ma vie allait tourner de plus en plus mal. Je m'arrête là parce qu'ensuite commence tout le récit, puisque ça se passe au Sri Lanka à Noël 2004, c'était donc ce que ça raconte ensuite, c'est le tsunami d'Asie du Sud-Est.
Alors le tsunami, des familles perdent les leurs, perdent des enfants. Ensuite, c'est la sœur d'Hélène, Juliette, dont tu parles dès le début, qui meurt. Son mari se retrouve seul, veuf, avec trois petites filles. Tu rencontres le confrère de Juliette, qui travaille avec elle, qui est juge, donc Étienne Régal. À partir de là, il te parle de justice.
Oui, le truc.
Ils te parlent de leur vie, de leur histoire.
Le truc, ce qui s'est passé, qui est vraiment l'origine de ce livre, c'est rare pour moi qu'un livre est aussi clair. Enfin, si, l'affaire Roman, c'est le jour où j'ai lu, le jour de janvier 93, où j'ai ouvert Libération et lu cette histoire, enfin, comme beaucoup de gens. Donc, c'est très clair, où je me suis dit, oh là là, il y a quelque chose d'énorme quoi, dans cette histoire-là. Mais en tout cas, aussi clairement, là. Sauf que c'était une expérience personnelle de première main. Ce qui s'est passé, c'est que donc ma belle-sœur, qui se prénommait Juliette et qui était juge, est morte d'un cancer, donc âgée de 33 ans, laissant un mari et trois petites filles. Et moi, j'étais, au fond, j'accompagnais ma compagne. Je la connaissais à peine, cette Juliette, je l'avais vue deux fois dans ma vie. Donc j'étais triste parce que, c'est très triste. Mais honnêtement, ça ne me touchait pas de très près. Ça me touchait indirectement. J'étais là plutôt pour veiller sur la femme que j'aimais, qui était dévastée. Donc j'étais une espèce de pièce rapportée qui suivait gentiment la famille. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour même, enfin le lendemain de sa mort, elle est morte à 4 heures du matin, on nous a dit, enfin le père nous a dit, bon, en fait, là, avant de rentrer à Paris, on va tous voir un collègue de Juliette avec qui elle s'entendait très bien, qu'elle aimait beaucoup et qui a envie de nous parler. Elle disait, oui, en plus, ils étaient d'autant plus liés que Juliette avait été malade et elle marchait mal, elle marchait avec des béquilles. Et lui, il avait eu un cancer jeune qui faisait qu'on l'avait amputé d'une jambe. Et donc, on allait voir un juge unijambiste, un collègue de bureau unijambiste. Et je me disais, bon, j'ai juste à suivre, mais ça me paraissait assez saugrenu comme visite. Enfin, et on s'est retrouvés comme ça à une dizaine dans le salon de ce type qu'aucun d'entre nous ne connaissait, qui avait ce que je trouve quand même rétrospectivement un acte incroyablement. Enfin, audacieux et libre de sa part. Et ce type s'est installé devant ses inconnus et a parlé pendant 2 heures d'horloge, a parlé d'elle, a parlé mais de leur amitié, de leur expérience à l'un et à l'autre de la maladie, de comment il avait été proche d'elle pendant son cancer, tout ça. Et puis, il s'est mis à raconter ce qu'ils faisaient comme juges, tous les deux, ce dont, à vrai dire, on n'avait qu'une idée très, très floue, dans le meilleur des cas. Et il commençait à rentrer même dans des trucs techniques, enfin, racontant des... Et au fond, ce type, pendant 2 heures, parlait à la fois... Enfin, il y avait le même... On parlait tout à l'heure de l'intérêt, à mon sens, qu'il y a... au fond, à mélanger les registres, ce qui relève a priori de la vie privée ou de la grande histoire et tout, que tout ça se mélange. J'avais l'impression, pendant les 2 heures où ce type a parlé, qu'il faisait ça avec une simplicité et une liberté totale qui mélangeait tout ça et qu'au fond, j'avais une espèce de concentré de quelque chose d'humain, d'incroyablement passionnant, qui faisait que, enfin, mais le jour même, j'ai eu l'impression que le programme de ce livre était déjà fixé. Et au fond, ça a mis du temps à se faire. Mais finalement, c'est ça que ça a été. Je m'étais dit, au fond, je voudrais écrire un truc, un récit qui fasse passer l'émotion que j'ai éprouvée pendant 2 heures à écouter parler ce type. Et finalement... C'est ce que, bon, ça s'est évidemment amplifié, ramifié, tout comme toujours, mais c'est finalement ça. Et cerise sur le gâteau, l'initiative ne venait pas uniquement de moi, puisque à l'issue de ces 2 heures, alors qu'on prenait congé, il nous raccompagnait à la porte, il n'avait pas du tout manifesté qu'il me connaissait comme écrivain, mais au moment de me serrer la main, il m'a dit « Réfléchissez, c'est peut-être pour vous cette histoire. » Et bon, je suis revenu... une semaine après, à l'enterrement de Juliette, je lui ai dit, bon, ben, on prend nos agendas, puis on voit quand on se voit. Et il a commencé à me parler, à me raconter sa vie, tout ça. Et en fait, voilà, le livre raconte... Enfin, une des choses que raconte le livre, c'est principal, c'est ça.
Et à partir de quel moment dans le livre, t'as compris qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait aussi, qui allait justement chez toi vers d'autres vies que la tienne?
Je sais pas bien, c'est difficile.
Parce que tu racontes aussi les gens dont ils s'occupent, ce juge qui sont dans un état d'endettement.
Oui, ça amène à raconter. Enfin, ça c'est vraiment des trucs. Vous voyez, ce juge et Juliette s'occupaient tous les deux de droit du surendettement. Il était juge d'instance. Le juge d'instance, c'est ce qu'il y a de moins glamour dans la justice. Enfin, vraiment, c'est pas les assises, c'est pas les assises. Il y a du théâtre, il y a un cérémonial, c'est passionnant, ça passionne tout le monde d'ailleurs. Les trucs d'instance, c'est vraiment des dégâts des eaux, des querelles mitoyennes, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment le rez-de-chaussée de la justice. Et une des choses principales qu'affronte un juge d'instance, c'est les questions de surendettement. C'est tous les gens, donc c'est pas du pénal, quoi. C'est les gens qui ont signé des trucs, qui ont surconsommé et qui se retrouvent couverts de dettes, d'intérêts, de pénalités, de trucs comme ça, par lesquels ils sont totalement étranglés. Et au fond, moi, j'ai découvert, Étienne m'a très longuement parlé de ces questions, des questions de droit que ça posait, qui sont très complexes, parce que je veux dire, c'est pas, en plus, Étienne n'est pas du tout un bout de feu ou un révolutionnaire, un type qui pense qu'il ne faut pas payer ses dettes. La base d'une société et du droit, c'est que les dettes doivent être payées, bien sûr. Mais qu'il y a aussi des situations dans lesquelles les dettes sont impayables. Enfin, le processus qui a conduit à leur accumulation doit aussi être sanctionné. Enfin, c'est un truc très, très délicat, et juridiquement, et politiquement, et moralement, à tout point de vue. Enfin, c'est comme si c'est ce petit sujet... Enfin, ce petit sujet, pardon, non, c'est, pour un tas de gens, c'est un sujet absolument vital. Mais je veux dire, de mon point de vue, à moi, honnêtement, de bourgeois qui n'a jamais eu de vrais problèmes d'argent ou de choses comme ça, voilà, c'était quelque chose que je voyais d'assez loin, honnêtement, les questions de surendettement. Et... à partir du moment où des questions comme ça, on se met à les regarder de près, attentivement, pas en survolant, mais vraiment en étant très, très précis, je trouve que ça devient passionnant. Et le fait est qu'il y avait, alors là, pour ce livre-là, une espèce de petit défi, mais qui n'était pas... C'était pas du tout de l'ordre des profondes, des térébrantes souffrances morales qui pouvaient accompagner le fait de faire quelque chose comme l'adversaire. Là, c'était plutôt quelque chose de stimulant artisanalement, de se dire, voilà, j'ai un paquet de trucs qui sont de la jurisprudence, des arrêts de la Cour de justice de la Communauté européenne, des trucs hyper techniques auxquels moi-même, je mets un temps fou, il me faut beaucoup de temps et beaucoup de pédagogie de la part d'Étienne pour arriver à les comprendre. Le but, c'est d'arriver à faire qu'il y ait, je ne sais pas, 50 pages dans le livre qui racontent ça d'une façon qui soit intéressante et qui touche le lecteur qui n'en a pas d'expérience de première main, qui ne s'y intéresse pas a priori plus que ça, et sans qu'il soit et à la fois sans qu'il soit perdu dans ce labyrinthe technique, et en même temps sans lui en rentrant dans le détail de ces questions techniques. Ça, d'un point de vue d'écrivain, c'est à la fois compliqué et c'est du gâteau. Enfin, c'est extraordinairement excitant à essayer de faire. C'est beaucoup de boulot, mais c'est un truc très...
Alors, c'était quoi, en fait, le moyen? Enfin, comment est-ce que tu as...
Ah, le moyen, c'est de bosser. C'est-à-dire, c'est d'énormément prendre de notes, d'énormément de faire beaucoup de versions successives en les élaguant, en les simplifiant, tout en essayant de garder la complexité. Non, c'est simplement du travail, quoi. C'est vraiment beaucoup sur le métier, remettre l'ouvrage en question, parce que ça, c'est très, très, très technique à écrire. Mais c'est très excitant. Il y avait un vrai... plaisir et une espèce même... Oui, il y a une espèce d'excitation enfantine, enfin, à se dire, putain, là, je suis en train de faire un truc, c'est pas mal, quoi. C'était, honnêtement, oui, il y avait une espèce de fierté à réussir artisanalement, ce truc-là.
Alors, c'est aussi, on a l'impression, ce texte, c'est aussi une espèce de trajet qui te mène à finalement rester avec Hélène.
Entre autres
choses. Réaliser le début, finalement.
Non, mais il y a quelque chose, oui, qui est frais, qui est...
Enfin, avoir une aptitude au bonheur, en tout cas, ou à
oui,
l'autre.
On peut dire... Oui, on peut dire, disons qu'il y a...
Au lien.
C'est vraiment un livre, c'est ce que tu m'avais... c'est ce que tu m'avais dit quand on s'était vu il y a un an, à peu près, avant l'apparition de ce livre. C'est effectivement un livre sur le lien, quoi, sur la possibilité du lien. Et quant à moi, disons, je me suis... abondamment plein et dans la vie et sur le divan de l'analyste et en tout cas dans ce livre-là, de ma difficulté à vivre un vrai lien amoureux, à ne pas saccager les choses, les foutre en l'air, ce livre-là trace une voie plus paisible et à laquelle j'espère dans laquelle j'espère demeurer, mais enfin là ensuite c'est de l'ordre du vœu, quoi.
Est-ce que tu veux lire la...
Je veux bien, oui, il était question de... On avait envisagé de lire la fin, la dernière, puisque finalement j'ai lu la première page et demie, je vais lire la dernière page et demie de ce dernier livre, donc où il est question de Patrice, qui est le veuf de ma belle-sœur Juliette, et qui donc est un des trois personnages principaux du livre. Et donc, il est question de lui et de ses filles, enfin, qui sont les nièces de ma compagne et qui sont très présentes dans nos vies. Arrivé à la fin de ce livre, je pense qu'il y manque quelque chose à propos de Diane. Amélie et Clara y ont un peu la parole, chacune une scène à elle comme une chambre à soi, mais elle, quand tout cela est arrivé... Elle était si petite qu'elle apparaît seulement comme un bébé muet ou braillard dans les bras de son père. Elle a 4 ans maintenant, et je pense qu'elle se dit que pour d'autres raisons se sont dit ses deux sœurs, que c'est encore plus dur pour elle que pour les autres. Parce qu'elle est la dernière, parce qu'elle n'a eu sa mère auprès d'elle que 15 mois, parce qu'elle ne se la rappelle même pas. Nathalie, la femme d'Étienne, m'a raconté qu'à leur dernière visite en famille, Diane réclamait tout le temps que Juliette la prenne dans ses bras et que Juliette la remettait tout le temps dans ceux de Patrice. Elle n'avait plus qu'un mois à vivre et elle disait « Il ne faut pas qu'elle s'habitue, ça va trop lui manquer après. » Patrice raconte, lui, que ses premiers mots ont été « Où est maman ?» et que le premier film qu'elle a aimé, c'est Bambi. Elle a revu 100 fois la scène où Bambi comprend que sa maman ne se relèvera pas. C'est l'image la plus juste qu'elle se fait de sa propre histoire. Patrice dit aussi que des trois filles, c'est elle qui aujourd'hui parle le plus de Juliette et la seule qui lui demande, très souvent, à regarder le diaporama. Ils descendent tous les deux au sous-sol. Ils prennent place tous les deux devant l'ordinateur qu'ils mettent en marche. La musique commence. Les images défilent. Patrice regarde sa femme. Diane regarde sa mère. Patrice regarde Diane la regarder. Elle pleure. Il pleure aussi. Il y a de la douceur à pleurer ainsi tous les deux, le père et sa toute petite fille. Mais il ne peut pas et ne pourra jamais plus lui dire ce que les pères voudraient dire à leurs enfants, toujours. Ce n'est pas grave. Et moi qui suis loin d'eux, moi qui pour le moment et en sachant combien c'est fragile suis heureux, j'aimerais penser ce qui peut être pensé, tellement peu, et c'est pour cela que ce livre est pour Diane et ses sœurs. Voilà.
Alors, puisqu'on est dans le cadre d'une question qui est écrire pourquoi.
Oui, oui.
Je me ferai une voix de te poser cette question difficile. D'abord,
tu la poses là directement.
Je te la pose de. Non, mais plus compliqué que ça. D'abord, pourquoi tu as commencé ou comment, enfin, qu'est-ce qui a été une motivation chez toi pour commencer? Et puis, je voudrais savoir pourquoi tu continues. Je veux dire, de façon, quel est l'enjeu vraiment? Parce que tu vas me dire, tu peux pas faire autrement.
Non, en tout cas, j'ai commencé comme typique. Typiquement, le petit garçon qui était très bon en français à l'école, qui avait des lunettes, qui avait un peu peur d'être, qui était un peu chétif et qui avait peur de se faire, enfin, vraiment qui avait peur de se faire taper dessus à la récré, et qui lisait beaucoup de livres, tout ça. Je me souviens d'ailleurs en fait qu'un des livres qui m'avait le plus marqué dans ma vie était, j'étais petit, hein, mais je pense que j'avais même dû en lire une version abrégée, c'était 20 milieux sous les mers. Il y avait un film aussi à cette époque-là qui était. Et donc, en fait, il y avait deux rôles, deux personnages masculins, au cas de personnages d'hommes dans lesquels je pouvais me projeter, m'identifier, me dire c'est ça que je deviendrai plus tard. Il y avait le harponneur Ned Land que jouait Kirk Douglas avec ses pectoraux moulés dans une espèce de marinière rayée comme ça, et donc il y a plein de tatouages, des harpons, tout ça. Et il y avait le professeur Aronnax qui était comme ça, qui faisait un livre sur les grands fonds sous-marins. Et je pense que mon premier rêve a été d'être harponneur comme Ned Land. À un moment, mes parents ont dû m'expliquer que harponneur, c'était pas un truc sur lequel, enfin, que c'était pas un bon plan. Et en plus, je me sentais un petit peu, justement, petit, pas chétif, tout ça. Ce qui fait qu'au fond, je me suis rabattu sur l'emploi de écrire un livre sur les grands fonds sous-marins. Ce que d'ailleurs j'avais essayé de faire à l'époque, et comme j'étais très très ignorant, dans les grands fonds sous-marins, il y avait la carpe, le goujon, des trucs comme ça, enfin des animaux, des poissons d'eau douce bien connus. Non, je pense qu'il y a des représentations comme ça qu'on se fait très très tôt de ce qui est à la fois de ce qui, si peu que ce soit, vous est accessible et qui, tout en étant éminemment désirable. Et cette place-là, je pense très tôt, j'ai désiré l'occuper, même avant d'écrire quoi que ce soit, comme si c'était ça qui pourrait m'aller bien à faire dans la vie. Et finalement, comme j'ai pas changé d'avis là-dessus, je continue. Non, ouais. 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 En plus, je continue finalement actuellement, mais ça, je ne sais pas ce que ça durera, mais actuellement, ça devient un peu plus facile. Peu plus facile,
pourquoi?
Je veux dire,
moins douloureux, tu veux
oui,
dire.
Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai l'impression que pendant très longtemps, écrire a été l'objet d'une espèce de territoire de la dépression, de l'angoisse la plus totale, tout ça, parce que comme si j'y mettais un enjeu démesuré qui était absolument paralysant, tout ça. J'ai l'impression, avec le temps, d'acquérir un peu plus de souplesse, quoi, à l'égard de cette pratique-là. Et donc, avec beaucoup de surprises, une espèce de surprise émerveillé dont j'ose même pas m'approcher, je suis en train de prendre conscience que je commence à prendre plaisir à faire ça. Chose qui, pendant très longtemps, était à la fois, je veux dire, la chose que je désirais le plus au monde, mais dans laquelle le plaisir avait très très peu de part. Enfin, je n'ai jamais pris grand plaisir à écrire, alors que maintenant ça commence à venir. C'est encourageant.
Alors pour finir, oui, on est.
Mais c'est.
Pour finir, quand on s'était rencontré justement il y a un an pour la sortie d'Autre vie que la mienne, tu me disais que tu avais l'intention justement de continuer dans cette voie d'autre vie que la tienne et d'écrire une sorte de biographie sur un écrivain russe, Limonov.
Oui, alors c'était.
Alors tu l'as continué, c'est toujours d'actualité. Alors
je viens
de passer à autre chose.
Non, c'est les deux à la fois, si tu veux. C'est-à-dire que pour dire les choses, non, mais il faut juste éventuellement dire de quoi il s'agit, parce que je ne sais pas si le nom de Limonov est familier quiconque ici. Il y a une vingtaine d'années, il ne l'était plus. C'est un écrivain russe qui, dans les années 80, vivait en France, publiait des livres en France, qui étaient pour l'essentiel des livres autobiographiques. Excellent d'ailleurs, c'était un type qui avait eu une vie très aventureuse, c'était un peu une espèce de Jack London russe à certains égards. Le type avait commencé comme délinquant juvénile dans la banlieue d'une ville d'Ukraine, était devenu poète underground sous Brejnev à Moscou, puis avait émigré aux États-Unis où il avait été plus ou moins à la fois clochard, valet de chambre d'un milliardaire, des trucs. Enfin, voilà une espèce de biographie comme ça. Bon, quand je l'ai connu en France, il était disons, écrivain branché et dissident marrant, ce qui tranchait sur les dissidents graves, si je peux dire. Et là, ensuite, ce Limonov qu'on était nombreux à trouver très sympathique, à bien aimer, tout ça, à partir du moment, enfin, de la fin du communisme, a pris une tangente assez étrange. Enfin, d'abord, on s'est mis à le voir. Il y a eu un film comme ça, le montrant sur les hauteurs de Sarajevo, en train de tirer sur la ville à la mitrailleuse, sous l'œil bienveillant de Radovan Karadzic. Ensuite, il est rentré dans son pays, où il a créé, en Russie, où il a créé un parti qui s'appelle le Parti National Bolchevique, et qui ressemblait à une espèce de vague milice fasciste, un truc comme ça. Ensuite, on l'a foutu en prison pour tentative de coup d'État séparatiste au Kazakhstan. Et maintenant, à la suite d'un retournement assez étrange, il se retrouve à être finalement une des voix de l'opposition démocratique en Russie. Enfin, c'est un trajet invraisemblable. Et le bonhomme est... Voilà, j'ai l'impression que je ne sais pas bien. Je trouve que c'est son histoire. Enfin, je le connais un peu. J'ai lu ses livres. En plus, c'est bien commode pour faire une biographie parce qu'il l'a tout raconté dans ses livres. Donc, ce que je veux dire, c'est que la recherche est relativement limitée. Quoi. Encore qu'il y a une partie de ses livres, il faut les lire en russe parce qu'ils ne sont pas traduits. Mais en tout cas, je trouvais ça assez passionnant à raconter, tout en me demandant... La question que je me pose toujours, c'est que ça raconte quoi ? Comme si ça, dans le détail, c'est constamment intéressant à raconter. Et donc là, en fait, j'ai travaillé là-dessus. J'ai une espèce de très long premier jet, enfin, que j'ai décidé de mettre de côté pour le moment, mais en me disant, selon toute vraisemblance, d'ici quelques temps, je remettrai le nez dedans et peut-être que ça m'apparaîtra sous un autre angle. Parce que tout de suite, je suis très... en dehors d'aspects de vive antipathie que m'inspire le personnage, qui sont mélangés à des aspects que je trouve sympathiques. Il n'y a que tout en ayant écrit tout ça, qui est beaucoup, en fait, il y en a une espèce de masse assez importante, ce qui est d'ailleurs très rassurant pour s'y remettre à un moment. Ça veut dire qu'en fait, c'est du montage à faire à partir de matériaux qui existent déjà. Mais tout de suite, je sais pas par quel bout le prendre, je sais pas ce que ça raconte, et donc je pense que le mieux, c'est de le laisser reposer quelques mois, quelques années, on verra bien. Finalement, c'est un truc que je m'aperçois que je procède de plus en plus comme ça. Ça a été le cas pour ces deux livres, d'ailleurs, et pour un roman russe, et pour d'autres vies que la mienne. Finalement, j'avais commencé d'autres trucs, et puis c'est des trucs que j'avais abandonnés, et puis repris. Le seul problème, c'est que quand on commence à avoir repéré l'efficacité d'un procédé, je pense qu'il cesse d'être efficace. Donc, il faut se méfier des ruses qu'on invente soi-même.
Ce serait peut-être la dernière fois, alors, que tu laisses un peu, que tu attends,
oui,
que tu
oui,
reprends.
Oui, 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 là, je...
Ben, merci beaucoup.
Je le laisse reposer.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci
Carrère.
Beaucoup, Mélie.
Merci à vous.
Merci de votre...
Bonsoir.
Bonsoir.
Il y a un an et demi ou deux ans, à Beaubourg, il y a eu une rétrospective des films de Werner Herzog.
Oui.
Et vous avez écrit donc un livre sur ces films. Alors, j'aimerais aimer savoir comment vous avez été amené à écrire ce livre, et puis si vous voulez faire une suite maintenant qu'il a fait d'autres films, ou écrire
alors,
à nouveau sur le cinéma.
C'est le premier livre que j'ai publié. Ça devait être en... je sais pas, en 79 ou 80, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ça fait un moment. Je travaillais à ce moment-là comme critique de cinéma, à la fois pour la revue Positif et pour le magazine Télérama. Et en fait, il y avait un éditeur qui lançait une collection de monographies sur des cinéastes contemporains et qui m'avait demandé si il avait vu quelques articles que j'avais faits, il trouvait ça pas mal, il me disait bon, en plus il essayait de prendre des jeunes critiques, débutants, tout ça. Et donc il m'avait dit bon, c'est sur quoi tu as envie d'écrire. Et moi j'étais passionné par le cinéma de Herzog à ce moment-là. Mais vraiment, parce que oui, c'était le cinéaste qui me. Et donc j'ai été très heureux d'écrire ça. Ce qu'il y a, pour dire la vérité, j'ai vu 2-3 films de cette rétrospective, et en fait, je trouve actuellement que c'est de nouveau vraiment. Enfin, que mais au fond, si j'aime tant les films de Herzog, c'est aussi parce que c'est un documentariste et que c'est avant tout un immense documentariste, et que je dirais que ce qui fait le prix de ces films, de ces fictions, c'est plus la part documentaire est grande selon moi dedans, plus les films de fiction tiennent le coup, et ceux dans lesquels la part documentaire paraît plus congrue me paraissent ne pas tellement tenir debout. Et de fait, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, un éditeur m'avait demandé si je voulais envisager de rééditer ce livre en l'actualisant. Et outre que, à ce moment-là, il faut bien dire qu'Herzog était vraiment dans le plus grand creux de la vague. C'était curieux, d'ailleurs, à Beaubourg, de voir comme ce type qu'on avait... Plus personne s'intéressait il y a 10 ans, la passion que ça suscitait. Enfin, comme il y avait énormément de monde, comme c'était vraiment... c'était beau. Et je dirais qu'il y a 10 ans, au fond, moi, je me disais, non, moi, j'aime plus tellement ces films, je n'ai pas envie d'écrire là-dessus pour finalement faire état de déception. Mais je trouve que plus... Je ne dis pas que ce serait quelque chose à quoi j'envisage de m'atteler en urgence, mais ça me paraîtrait tout à fait envisageable d'écrire quelque chose sur Herzog, de nouveau sur Herzog maintenant, parce que je suis vraiment de nouveau très, très passionné par ce qu'il fait au cinéma. Mais plus je vous dis que c'est cette espèce de noyau dur documentaire chez lui qui me touche le plus. Et c'était d'ailleurs déjà le cas quand j'avais écrit dessus il y a 30 ans. Oui, monsieur.
Il y a une question là, non ?
Attendez.
Il y a monsieur là.
Oui, monsieur.
Là.
Dans votre dernier livre, on a aussi quand même l'impression qu'il y a un côté engagé par rapport à la maladie, par rapport au handicap, par rapport au lien. Vous nous avez parlé du lien, mais la question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut écrire ce que vous avez écrit sans être profondément convaincu de l'image que vous avez développée par rapport à la maladie et par rapport au handicap? C'est-à-dire, j'ai du mal à penser que vous n'en êtes qu'un narrateur. Je pense que vous en êtes aussi, vous l'avez habité, ça. Est-ce que je me trompe ou...
Ah non, j'espère que vous ne vous trompez pas. Non, je veux dire, quand je dis un narrateur, ça ne veut pas dire du tout désengagé. Ce que je veux dire, c'est que, malgré tout, c'est les histoires qui sont racontées dans ce livre, que ce soit celles qui ont trait à la maladie, au handicap, à la perte d'un enfant pour ses parents, à la perte de leur mère ou pour de très petites filles, tout ça. C'est-à-dire aucun de ces malheurs, tant mieux pour moi, Dieu merci, à ce jour, je ne l'ai vécu, aucun ne m'a été infligé. Ça veut dire que je suis... Donc ensuite, là, c'est purement une... Ça se pose en termes d'empathie, de rapport, de capacité évidente et qu'on partage évidemment à se projeter dans ce que vit autrui, à se demander comment on s'en tirerait soi des preuves comparables. Mais malgré tout, il reste ce truc que moi, je n'ai été frappé par aucun des malheurs qui sont racontés dans ce livre. Je dirais que moi, pour ma part, l'expérience qui m'est très familière est celle, je dirais, c'est flou, mais je ne vois pas comment dire autrement, le malheur psychique. Je veux dire, j'ai pas connu de grand deuil, je jouis d'une bonne santé, j'ai pas connu de grands problèmes matériels, de choses comme ça. En revanche, j'ai été une très grande partie de ma vie épouvantablement malheureux, et je ne laisserai jamais personne dire que ce malheur est dérisoire sous prétexte qu'il n'a pas de cause, comment dire, honorable, telle que vous avez des arguments du genre, oui, mais enfin, ça, c'est d'accord, c'est un peu du luxe, quoi, des états d'âme, des choses comme ça. Je ne crois pas du tout. Je pense que la dépression, la maladie, je parle pas de la maladie mentale, hein, qui est tout à fait d'un autre ordre, mais là, tendance mélancolique, tout ça, je sais très bien ce que c'est, je sais que ça vous fait mener une vie d'enfer. Mais disons, mon expérience du malheur est de cet ordre-là. Et ça n'est pas celle dont il est question dans ce livre-là. Et maintenant, la confrontation entre les deux, j'ai l'impression d'ailleurs de parler aussi pour mon compte, de parler de ça. Ouais, je sais pas. Peut-être que je réponds tout à fait à côté de votre question. Je ne sais pas si c'est de ça que vous vouliez parler.
En fait, c'est vrai que moi j'ai été extrêmement admiratif de la manière dont vous parliez du handicap, de la souffrance, de la maladie, et je me disais comment on peut parler de ça, non pas en le vivant, parce que je pense qu'on peut parler des choses sans les vivre, mais avec cette capacité d'en parler aussi bien et si positivement. Parce que justement, en général, quand les gens n'ont pas vécu les choses, ils en parlent d'une manière assez stéréotypée, etc. Et j'ai trouvé que la manière dont vous en parliez était plutôt très novatrice et très positive. Donc, du coup, je me demandais comment était-ce possible.
Alors, je veux pas faire. Il ne s'agit pas du tout de faire de fausse modestie et de minimiser ma part. Mais ça tient énormément à la personnalité d'Étienne Rigal, qui a été mon interlocuteur, enfin, à la fois, comme je le racontais, un peu l'initiateur de ce livre. Avec qui s'est noué une véritable amitié très confiante et qui a une capacité de parler de la maladie, du handicap que lui a éprouvé. Je trouve qu'il en parle, comme vous dites, d'une façon extraordinairement positive, sans pour autant jamais verser dans une espèce de positive thinking, choses comme ça. Je trouve qu'il parle des choses avec une très grande... Oui, avec une véritable audace, une véritable liberté, une façon... Et au fond, j'ai vraiment essayé dans le livre... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au fond, vraiment, le pari du livre, pour moi, à l'origine, c'était de faire ressentir ce que j'avais éprouvé en écoutant ce type pendant 2 heures. Alors ensuite, ça n'a plus été 2 heures, ça a été beaucoup plus d'heures qu'on a passé ensemble, où il m'a raconté les choses de façon très détaillée, mais c'était... Au fond, je ne me suis jamais senti... mal à l'aise vis-à-vis de lui, comme c'est où tout était extraordinairement vivant de ce qu'il disait. Et au fond, j'ai essayé ensuite, j'ai donné forme à ça, j'ai essayé d'agencer ça, de le monter, tout ça. Mais au fond, le contenu, émotionnel, en termes d'expérience humaine concernant ça. C'est vraiment lui, quoi. C'est lui et sa capacité de faire partager son expérience et de penser absolument qu'elle est extrêmement intéressante pour autrui. Ce dont il est absolument convaincu. Enfin, c'est un truc que j'aime bien chez lui, c'est sa façon de ne pas, de la même façon que je me souviens, il m'avait vraiment au fond cueilli en commençant à parler, vous savez, il y a un truc que je vous savais pas, que je voudrais que vous compreniez, c'est que Juliette et moi, on a été des grands juges. J'avais adoré cette phrase, la façon de l'espèce de fierté avec laquelle il était capable de dire ça. Et il était capable de parler de la maladie, du handicap, tout ça, de la même façon, pas en lui mettant de la fierté, il n'y a pas de motif de fierté, mais je reviens à une façon qu'il répète à plusieurs reprises et qui m'a frappé, c'est cette façon de dire... lui, il dit, quand il parle de quelqu'un, le grand compliment qu'il peut faire de quelqu'un, c'est de dire « il sait où il est ». Et Étienne est vraiment quelqu'un qui, je trouve, sait où il est. Je ne sais pas exactement ce que veut dire cette phrase, mais elle a été extrêmement, secourable pour moi tout au long et de l'écriture de ce livre. Et je dirais, dans ma vie, j'ai l'impression que ça m'a aidé à un peu mieux voir où j'étais moi-même.
Encore une question ?
Merci. Je voulais vous interroger sur une dimension qui n'a pas été évoquée là, mais que vous avez vous-même évoquée, notamment dans un roman russe, je crois, la dimension que vous appelez, avec un peu d'ironie amère, performative, oui. L'écriture comme acte. Il y a l'aspect que vous avez évoqué à travers la nouvelle pornographie, c'est le plus évident. Je pense que c'est intéressant, mais c'est peut-être pas le plus significatif de cette dimension de notre écriture. Il y a un épisode dans L'Adversaire qui reste ce récit vraiment très concentré, que vous évoquez sans vous y attacher, qui est le fait que, il me semble, je ne l'ai pas relu là, mais le premier contact que vous avez avec Jean-Claude Roman, vous lui envoyez votre biographie de Philippe Cadic qui s'appelle Je suis vivant et vous êtes mort.
Donc, j'ai trouvé ça de super voilà. Bon goût.
Bon, donc là, il y a
une fois que j'ai posté la lettre et qu'il était le paquet.
C'est pour ça que moi, je mettrais volontiers cette biographie, dans la série des 3 autres livres. Je crois qu'il y a quand même un lien. Alors, évident, mais bon. Alors, la question, c'était sur la fin de L'Adversaire. Là aussi, je parle peu. Bon, il me semble que la dimension performative, ou disons l'écriture comme acte, vous avez une formule. En tout cas, les deux termes qui viennent, c'est quand vous concluez votre récit, soit c'était comme un crime ou comme une prière. Alors, bon, peut-être qu'il faut rester de manière un tout petit peu hésitante ou énigmatique, mais sinon, est-ce que vous avez quelque chose d'un petit peu plus éclairant par rapport à ce qui reste. Ah,
je suis mal à l'aise pour commenter ce qui est effectivement la dernière phrase du livre, qui, autant que je me souvienne, je crois que je terminais le livre en disant, j'ai pensé qu'écrire cette histoire ne pouvait être qu'un crime ou une prière. C'est curieux parce que cette phrase, à la fois je ne la retirerai, supposer que je puisse rééditer le livre en l'amendant d'absolument tout ce que je voudrais, etc. Je ne supprimerai cette phrase pour rien au monde, je ne la modifierai même pas. Et en même temps, si on la met devant moi, je ne sais pas quoi en dire. Alors si, je peux dire que tout de même, il y a ce qui peut séparer disons ces deux modalités d'approche d'une telle histoire, c'est tout simplement la capacité de compassion, quoi. C'est-à-dire que soit il y a quelque chose qui est de l'ordre de la compassion et on est sur un terrain qui peut être celui de la prière, puisque somme toute, c'est-à-dire je veux pas me dérober éventuellement à la si on me fait remarquer qu'il y a un côté très chrétien dans ce livre ou dans mon approche, mais en même temps, c'est pas uniquement moi qui l'y ai mis. Je dirais que c'est la problématique, si on peut dire, dans laquelle se place lui-même Jean-Claude Roman, qui s'est assez emphatiquement converti, qui est dans une dévotion très, qui semble être sa façon de survivre. Et je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Au fond. Pardon, je suis un peu confus, mais j'essaye finalement de préciser un peu ce que c'est. Parce qu'au fond, cette phrase, elle arrive justement à un moment où à la toute fin du livre, où au fond, je me sens comme sommé d'exprimer, sinon un jugement, du moins un avis sur la foi dont se réclame Roman aujourd'hui en prison. Et bien sûr, il est très tentant et beaucoup de gens le pensent, et une partie de moi le pense, de se dire « ouais, c'est bien commode, enfin, en gros, il a menti toute sa vie, maintenant il s'est trouvé un truc, alors là, en plus, totalement imprenable, parce qu'on peut toujours raconter toute sa vie qu'on est médecin, un jour on peut vous prouver que vous ne l'étiez pas ». Si on dit qu'on a des expériences mystiques et qu'on est dans un rapport étroit avec Dieu, personne pourra jamais établir le contraire. Et donc, finalement, on peut se dire, ouais, il est bien tranquille. En gros, il s'est trouvé une espèce de suprême mensonge. Cela dit, ça ne me satisfait pas du tout. D'abord, de quel droit dire ça ? Rien ne m'autorise à dire ça. Qui suis-je pour savoir ce qui se passe dans la tête, dans le cœur, oui, j'irais même jusqu'à dire de si lourde connotation que soit ce mot dans l'âme de Jean-Claude Roman, je ne peux rien dire de ça. Et au fond, c'est comme si on était justement devant une espèce de boîte noire où tout ce qu'on voit, c'est ce qui en sort, ce qui se passe à l'intérieur, on n'en sait rien. Et dans la mesure où je suis amené à si peu que ce soit, parce que c'est mon travail de narrateur à cet endroit-là, dans la mesure où je suis amené à conjecturer sur ce sujet, j'ai l'impression que l'attitude de la prière, même si on n'est pas croyant, est la seule possible. Est-ce que je réponds à peu près ? Je ne suis pas super à l'aise sur ce terrain.
Bonsoir, j'ai une question. Vous employez souvent le mot montage quand vous parlez de l'élaboration de vos livres. Jean-Philippe Toussaint, sur son site internet, a dévoilé un petit peu les différentes étapes de ses manuscrits. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez de faire ou qu'est-ce que vous en pensez du making-of un peu de l'écriture, justement ?
J'y ai jamais pensé pour moi, à vrai dire, pour mon compte. Je veux dire, j'ai pas encore vu le site de Toussaint, mais je suis très curieux de le voir. D'abord parce que j'ai beaucoup d'estime et même d'admiration pour lui et que je suis très curieux, quoi, de voir. Mais je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, j'y ai pas pensé. Il y a une espèce de de réflexe un petit peu bêtasson qui et de commencer par se dire ouais c'est un peu prétentieux et en fait je sais pas, je trouve pas du tout que ça soit prétentieux de la part de Toussaint de le faire par exemple et donc si Toussaint pourquoi pas moi mais cela dit c'est marrant parce que justement là ces temps-ci venant de mettre de côté un truc sur lequel je travaillais depuis un moment en me disant ça pour plus tard j'ai remis le nez comme je fais généralement dans ces cas-là, dans divers trucs, des dossiers vaguement ouverts datent d'il y a un moment, dont je me dis, tiens, il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant à trouver là-dedans, tout ça. Et le fait est que, bon, moi, ça, je ne sais pas du tout si ça pourrait intéresser autrui, mais moi, ça m'intéresse infiniment de revoir où j'en étais il y a 3 ans, il y a 5 ans, des choses comme ça. Mais par ailleurs, en fait, quand vous avez commencé à poser la question, je pensais que vous alliez dans une autre direction qui était là sur la question du montage, justement. Et je sais que j'ai de plus en plus tendance à me dire que la chose que j'aime et que j'attends à chaque fois de pouvoir faire dans un livre, c'est ce qui correspond, c'est l'équivalent pour un livre de la phase du montage au cinéma, quoi. C'est-à-dire le moment où on a tout le matériel, parce que ce qui est vraiment, je trouve, dur, c'est de cracher le matériel et de se retrouver à d'avoir tous les rushs, quoi, d'une certaine façon. Mais en revanche, une fois qu'on a tout ça, et les agencer ça, c'est vraiment le truc que
et justement, ma deuxième question, est-ce que vous envisagez de faire un long métrage? Fiction ou non-fiction ?
Je l'envisage comme une chose tout à fait possible ça me ferait plaisir. Simplement, actuellement, je n'ai pas du tout de sujet de film. Il ne m'est jamais arrivé de me dire d'une idée que j'ai, est-ce que ça pourrait être plutôt un livre ou plutôt un film ? J'ai l'impression de savoir
question, est-ce que vous recevez des lettres de lecteurs qui vous disent « ma vie est formidable » ou « venez me voir, j'ai quelque chose à vous raconter » ?
C'est assez souvent les gens qui me disent qu'ils ont quelque chose à me raconter ne me disent pas que leur vie est formidable. Ils disent souvent que leur vie est atroce et me disent mais vous êtes un spécialiste, c'est tout à fait pour vous, ça devrait vous intéresser. Et je réponds en marquant avec une certaine prudence. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'avoir fait une fois, je me vois pas systématiquement entreprendre de raconter les vies de tous les gens. C'est très curieux parce que il faut pour s'attacher à, puisque finalement, au fond, ce que je fais depuis un moment et je suis pas le seul. D'ailleurs, c'est des vies, c'est des récits de vie, quoi. C'est marrant parce que Jean Echenoz me faisait remarquer ça il y a pas longtemps. Il me disait, mais moi aussi, je me suis mis aussi. Finalement, il a écrit le livre sur Ravel, il a écrit le livre sur Zatopek. Là, il me dit, finalement, moi, ce que j'aime bien en ce moment, c'est écrire des vies. Et puis, on s'est dit, mais au fond, c'est rigolo. À chaque fois qu'on croit faire suivre sa pente la plus personnelle et la plus singulière, on fait comme tout le monde au même moment. Et c'est vrai, c'est pas grave. Moi, je trouve ça plutôt bien, finalement. Il y a un moment où ça me gonflait beaucoup, cette idée, et je me suis tout à fait réconcilié avec.
Une dernière question ? Non ? Sans regret ?
à formuler ma question, parce que vous avez dit à un moment, quand vous parlez d'une vie russe, un roman russe,
oui.
Vous avez dit mon grand-père était finalement, il a été traducteur des Allemands et somme toute, c'était pas si grave. Et quand vous dites quelque chose comme ça, ça fait quand même, ça ne méritait en tout cas aucunement la disparition ni rien du tout. Mais quand vous dites ça et qu'on a dans des familles, soit des gens très qui ont été ou déportés, moi, une partie de ma famille déportée et l'autre un peu antisémite et un peu collabo, un grand-père collabo, c'est pas génial.
Je suis tout à fait d'accord. Je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que malgré tout, il y a des questions de degré et que le grand-père, autant que je sache, et je suis allé regarder d'assez près, c'était pas un criminel de guerre, il a été traducteur, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que s'il ne s'était pas produit ce qui s'est produit, selon toute vraisemblance, il aurait eu un peu d'ennui à la libération, il aurait peut-être passé quelques mois en prison, et après ça. Ah oui. Ah c'est oui oui. Ah, ah non mais c'est très très lourd. Ah non, ah, ça, oui, bien sûr. Non, 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 je croyais que vous me, que vous me, que gentiment vous me reprochiez de minimiser la, l'ampleur de ce qu'on pouvait reprocher au grand-père. C'est que, mais non, sur, en tout cas, le poids subject, le poids que dont pèse un tel passé familial est très très lourd. Ça, je suis absolument d'accord. Absolument d'accord. Mais attendez, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien que dire, ma mère a passé toute sa vie à se dire il n'est hors de question qu'on parle de ça et à entrer dans une telle colère contre son fils parce qu'il envisageait d'en parler. Enfin, comme si c'était une chose qui aussi même la menaçait gravement, comme si c'était. Je pense que oui, c'était comme si je la tuais pratiquement en disant ça. Pour mon compte, oui. Oui, oui, oui. Je pense que. Oui, je pense sans exagérer que le fait, au fond, de raconter cette histoire, c'est-à-dire si peu que ce soit de faire une espèce de tombe à cet homme qui n'en a pas et qui est de ce fait. Depuis deux générations est une espèce de fantôme dans qui hante la famille. Je pense que sans exorciser ça était oui vital. Ouais. Ça me paraît pas excessif comme adjectif.
Bien. Écoutez, je crois que la séance va se terminer.
Merci beaucoup de l'attention. Merci Nelly. Merci de l'attention que vous nous avez portée. Merci.